longue marche des pages de son ouvrage Formasaro da Literatura Brasileira au chapitre intitulé Literatura como Sistema, Antonio Candido donne sa définition de la tradition. Donc, un texte est Maximilien. Et donc, je crois qu'il s'agit là d'une définition taillée sur mesure dont je vais m'inspirer pour retracer de la sœur à la mère l'évolution d'une représentation de la lutte des femmes dans le roman haïtien. Polysémie du terme maman. Même l'haïtien qui utilise avec la plus grande pertinence les mots de sa langue natale, le créole haïtien, le fait le plus souvent en ignorant l'ensemble des performances stylistiques de sa langue, faute de l'avoir étudié. Il pourrait, par exemple, s'écrier devant un spectacle qui s'offre à lui, comment maman, et croire qu'il ne fait que se servir de mots par simple allitération. Il ignorait que maman, l'amant est le nom d'une plante. Physalis, à propos de laquelle le dictionnaire Robert nous dit ceci, plante vivace, solanacée, appelée aussi amour en cage, dont le calice grand renflé, contenant le fruit à maturité, est très décoratif. Donc, l'exclamation de ce locuteur étant en fait une métaphore célébrant la merveille de la mère portant en elle la vie nouvelle, comme la plante évoquée. Donc, ce n'était pas une simple musique de mots sans lien logique. Comment lent serait ainsi un équivalent de l'admiratif Mamma Mia. En haïtien, c'est-à-dire dans la langue créole des Haïtiens, maman correspond à maman en français. Et maman, et sous sa forme abrégée, man, renvoie généralement à maman petite, la mère d'un enfant. Et naturellement, ils servent à traduire toute la tendresse ou la vénération d'un enfant pour sa mère. Et c'est ce que traduit ce vers d'une chanson où l'on dit tautologiquement « Maman, c'est maman, une mère, c'est une mère ». D'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre quelqu'un s'adressant à une vieille dame dont il ignore le nom, l'appeler par politesse « la mère ». Mais plus couramment, et on se sert de maman pour s'adresser à sa propre mère ou pour parler de la mère de quelqu'un. Donc, le mot « maman » peut désigner aussi la femme aimée, la femme aimée, celle en particulier qui nous fait souffrir. Comme on le dit dans cette chanson, Aïe, maman, nanote, oh, nanote chérie, pour qui ça va faire me souffrir? Pourquoi me fais-tu souffrir? Cette souffrance peut naître souvent que la plainte de celui qui s'étonne hypocritement d'être repoussé. Est-ce que c'est parce que m'pap travaille? Est-ce que parce que je ne travaille pas? Ou a fait m'passer un trail que tu me fais des misères? Alors, le mot maman, synonyme de l'indulgence sans limite, autorise alors l'amoureux à quémander les faveurs de sa belle, comme il le fait dans cette autre chanson. Ti maman, fais quichoy pour moi, petite mère, fais-moi plaisir. Pas quitter m'aller, ne me renvoie pas. Donc le mot man, abrégé de maman, peut s'associer aussi bien avec le nom de la personne désignée, Mansilla, qu'avec celui du conjoint de cette personne, comme dans Man Dodo, la femme de Dodo, et qui prend le sens de maman petite Dodo, la mère des enfants de Dodo. Donc, sur les registres des sentiments, le mot maman ou son diminutivement peut donc traduire toute une gamme de sentiments et de situations, et c'est ainsi qu'il élargit son sens pour désigner non seulement des personnes, mais même des objets comme dans Maman Caille, la grande maison, Maman L'Argent, le gros du trésor, ou encore Maman Pimba, le nom donné au canon de gros calibre placé dans la citadelle, la ferrière, pour défendre le pays dans le cas de retour des Français. Il y a donc une sorte de réversibilité du mot maman ou de son équivalent ment qui lui permet tantôt nom, tantôt épithète, de passer de l'amour à la guerre ou, si l'on préfère, du positif au négatif. Il peut désigner alors tout ce qui est important, étonnant ou même menaçant. Le terme maman renvoie alors à tout ce qui dépasse les proportions ordinaires des choses, ce qui est impressionnant, terrifiant à la limite. On parle alors de maman loup-garou pour désigner les sorcières qui rôdent la nuit, ou de sans maman pour parler de gens sans foi ni loi. Le terme maman peut aussi servir pour insulter. Et si ailleurs on le fait elliptiquement en disant Hey, ta mère! En haïtien, on le fait pour plus crûment en lançant Coulant guette, maman, comme le clitoris de ta mère. Donc, c'est dans cette perspective d'un élargissement constant du sens du mot maman qu'on arrive à l'employer pour parler du pays, la mère patrie en somme, avec toutes les nuances d'affection, de vénération, de nostalgie, mais aussi de culpabilité ou même d'espoir désespéré, si l'on peut ainsi parler. À preuve sévère d'une chanson faisant la louange d'Haïti et qui se termine par ce souhait: Haïti, 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 maman chérie, Haïti, mère chérie, c'est dans bras pour mourir, je veux mourir dans tes bras. Est-ce le rêve de retrouver le confort et la paix du fœtus qui n'a même pas, qui n'a pas encore affronter le monde tel qu'il est, ou celui de renaître à une vie nouvelle, comme semblait le souhaiter le roi Christophe, dont l'emblème était le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres? Cette image de la mort dans les bras de la mère chérie nous porte à croire que dans ce cas, le rêve ultime du poète est double. D'abord, mettre fin au malheur présent, et ensuite recommencer la vie avec un avenir plus clément, se reforger en somme une nouvelle histoire. Mais dans ce rêve de réincarnation s'insinue souvent le sentiment de culpabilité de ne pas avoir suffisamment témoigné de tendresse à cette mère qui a donné le jour à son enfant, ou même le regret de s'être montré ingrat à son égard. Il y a ainsi pas mal de chansons qui dénonce le fils ingrat qui s'est élevé dans l'échelle sociale grâce au sacrifice d'une mère qu'à présent il méprise et rejette. Ces diverses attitudes à l'égard de la mère patrie s'insèrent dans une vision extrêmement large de la famille. Un dicton populaire ne dit-il pas: voisinage, c'est famille, les voisins sont des parents. Le parent, ce n'est donc pas seulement les membres de la famille nucléaire, mais aussi les voisins, ceux qui habitent la même rue, le même quartier, la même ville, le même pays, ou encore ces voisins qui habitent de l'autre côté de la frontière, la même île, le même continent, et la même planète Terre. Un passage de gouverneur de la Rosée illustre bien cette vision de l'autre comme moi, à l'opposé du fameux je est un autre. Et moi aussi, cria le Sémidor. Il venait d'avaler coup sur coup deux verres de clairin. J'ai traversé plusieurs fois la frontière. Ces Dominicains-là, ce sont des gens comme nous-mêmes, sauf qu'ils ont une couleur plus rouge que les nègres d'Haïti, et leurs femmes sont des mulâtresses à grandes crinières. J'ai connu que de ces bougresses, elle était. J'ai connu une de ces bougresses, elle était bien grasse pour dire la vérité. Antonio, qu'elle m'appelait, voilà comment elle m'appelait. Eh bien, question de comparaison avec les femmes d'ici, rien ne lui manquait. Elle avait de tout et de bonnes qualités. Je pourrais faire un serment, mais destine me pria. Hein? Après, destine chérie, ce n'est pas la langue qui compte, non, c'est le reste. Tu peux me croire. Et puis, donc, c'est ça, la vision de tous ses voisins qui seraient de la même famille que nous n'est malheureusement pas toujours la règle. L'histoire d'Haïti serait même plutôt le témoignage du contraire. Aussi bien par ce qui se passe entre les Haïtiens eux-mêmes qu'entre le reste du monde et Haïti. Les Haïtiens sont divisés entre eux en même temps qu'ils se sentent exclus du reste du monde. Et c'est dans cette double perspective historique que s'insère dans le roman haïtien la vision d'Haïti comme fille de la famille divisée par les luttes des frères. Et bien voyons maintenant de Stella à Bicentenaire. Le premier roman haïtien, Stella, d'Emeric Bergeau, fut et publié en 1859, Bicentenaire, donc un roman de Lionel Trouillot, date de 2004, l'année même du 200e anniversaire de l'indépendance haïtienne. Donc, ces deux romans sont des fictions sur l'histoire politique d'Haïti, l'un d'hier et l'autre d'aujourd'hui. Le premier roman raconte l'histoire de la conquête de l'indépendance en 1804 et l'origine de guerres civiles qui en résultèrent. Le deuxième évoque quoi? Les tribulations actuelles de ceux qui voudraient voir le pays se libérer du despotisme et de l'incurie de ses dirigeants. Là où on peut faire un parallèle entre ces deux récits, c'est qu'ils utilisent un même schéma narratif. Il s'agit dans Stella de la lutte de deux frères, Romulus et Rémus, qui d'abord se battent contre le colon français, père de l'un d'eux et qui a maltraité leur mère, Marie l'Africaine. Puis, une fois cette première guerre terminée, Stella fait le récit de la guerre fratricide à laquelle ces deux frères ont commencé à se livrer pour la conquête du pouvoir. Dans Bicentenaire, il y a aussi deux frères, l'étudiant et son frère cadet. Les deux ont laissé leur mère, Ernestine Saint-Hilaire, aveugle et abandonnée dans une campagne éloignée pour se rendre dans la capitale. Et là, l'aîné milite contre le gouvernement en place, tandis que son jeune frère soutient ce gouvernement. Or, si Marie l'Africaine est morte, c'est tout comme pour Ernestine Saint-Hilaire, qui vit aveugle et isolée dans une région pauvre du pays. Les deux frères dans ces deux romans auraient pu avoir plutôt une amie, une sœur qui les aurait dissuadés de se battre et aurait ramené la paix entre eux. Mais l'ange de la liberté, Stella, qui avait aidé Romulus et Rémus dans leur lutte contre le colon esclavagiste, s'est envolé et a quitté le pays après la proclamation de l'indépendance. Et l'étudiant de Bicentenaire, à qui une journaliste étrangère servait de muse, a vu celle-ci, elle aussi, quitter le pays. À 2 siècles de distance, la situation demeure donc bloquée dans ce conflit familial qui nous est représenté dans un premier temps qu'à par une allégorie, puisque Stella est cet ange venu de France et qui, en quoi, qui retourne après la conquête de l'indépendance en 1804. Et dans le deuxième cas, on s'aperçoit que dans cette métaphore de la situation politique actuelle qu'est Bicentenaire, la journaliste étrangère, tout comme Stella, aurait pu être de bons conseils pour les deux frères, si elle n'avait, elle aussi, quitté Haïti. Cette situation qui perdure met donc en scène dans un rapport conflictuel les membres d'une même famille. Entendez par là des personnages qui partagent le même lien de sang, de sentiments ou d'idéologie et dont la représentation s'échelonne dans des œuvres romanesques publiées pendant près de deux siècles, de 1859 à et 2004. Regardons maintenant les romanciers de la ronde. À la mort du père, les frères se battent d'ordinaire pour sa succession, et c'est dans ce cas qu'on parle de lutte des frères ennemis. Mais il arrive aussi que le père mort, un souci qui lui succède, et c'est là aussi un motif de querelle entre deux frères, car l'un peut s'accommoder de nouveau paraître avec lequel il partise, alors qu'un autre frère peut vouloir continuer le combat pour le renversement de cette réplique de l'ancien paraître, plutôt. Et Émeric Bergeau, dans Stella, en 1859, nous racontait d'abord la lutte de Romulus et de Rémus contre le colon esclavagiste, leur victoire et ensuite le déclenchement de cette guerre pour sa succession qui perdure. Les romanciers de la ronde, cette école littéraire qui s'imposa sur la scène et littéraire entre 1900 et 1925, nous écrivent quant à eux la situation qui prévalait un siècle plus tard, alors que cette indépendance acquise n'avait pas mis fin à la tyrannie de dirigeants comparables aux colonisateurs d'autrefois. La même lutte des frères se poursuivait donc, mais cette fois à propos de nouveaux paraîtres presque identiques au premier. Et les frères qui s'entre-déchiraient pouvaient se repartir en partisans et en adversaires de ce souci de l'ennui d'autrefois. Donc la guerre de libération nationale se changeait donc en guerre civile, en lutte d'un clan de la société contre l'oppression d'un autre clan. Donc le schéma de la lutte des frères ennemis dans le roman haïtien, dès le début, se définit donc par un affrontement des frères dans l'ombre d'un père, invisible souvent, et d'une mère parfois absente, mais presque toujours en présence d'une sœur. C'est car ainsi que nous l'avons signalé, les frères qui avaient été soutenus dans un premier temps dans leur lutte contre le paraître par un adjuvant féminin, l'ange de la liberté, dans Stella, d'Émeric Bergeau, et la journaliste étrangère dans Bicentenaire de Lionel Trouillot, ont vu celle-ci s'éloigner de la scène du combat à partir du moment où ils allaient s'affronter dans une lutte fratricide. Or, à partir de l'époque de la ronde, nous assisterons au remplacement des sœurs étrangères par d'autres sœurs plus proches, notamment, comme nous le disions, par des liens de sang, de cœur ou d'idéologie. On peut donc voir dans cette substitution, non pas tant un abandon, mais un retrait de ses sœurs étrangères à partir du moment où les frères passaient de la révolution à la révolte. Elle laissait aux combattants le soin de régler leur lutte intestine eux-mêmes avec l'aide de leurs proches. Trois romans de cette époque de la ronde nous font saisir quelle contribution les femmes ont apporté dans cet affrontement des frères. Commençons donc par deux romans de Frédéric Marcellin, Thémistocle et Epaminondas, la Bastère, publié en 1901, et La vengeance de Mama, qui parut en 1902. Dans le premier roman, l'auteur nous raconte l'histoire d'un jeune homme, Thémistocle Émi et Epaminondas, la Bastère, qui d'abord fit partie du cercle des admirateurs de Télémaque, un politicien qui s'était fait le critique virulent des mauvaises politiques du gouvernement. Mais sitôt nommé ministre, Télémaque changea du tout au tout et se mit à appliquer les mêmes politiques qu'il critiquait auparavant. Donc cela portait Thémistocle à dénoncer la volte-face de son ancienne idole. Il fut tué par les sbires de Télémaque. Le deuxième roman, La Vengeance de Mama, qui fait suite au roman précédent, porte bien son titre. Il nous raconte la vengeance qu'exerce à Mama, la fiancée de Thémistocle, en contre Télémaque. Elle tendit un guet-apens au ministre félon qu'elle tua pour ensuite se suicider. Ces deux romans de Marcellin mettent donc en scène deux anciens frères d'armes devenus d'irréductibles ennemis. Nous avons là le schéma d'un conflit familial mettant en présence deux frères de convictions politiques opposées, dont l'un meurt par la faute de l'autre. Donc, il y a une mère, celle du journaliste tué, qui appelle à la vengeance et à la fiancée du défunt, qui met ce souhait à exécution et se suicide par après. Donc, nous retrouverons plus tard ce schéma de l'association d'une mère et de sa bru dans d'autres œuvres, mais avec des variantes et des significations opposées. En attendant, considérons un autre roman de l'époque de la Ronde où c'est la mère et sa fille de sang qui, cette fois, s'associent. Fernand Hibert, un contemporain de Frédéric Marcellin, dans son roman Les Tazards, nous raconte une histoire à caractère plus social que politique. Silotte, la fille de Monsieur et Madame Tazard, doit se décider entre deux prétendants de sa main. D'une part, il y a, comme nous dit Pradel Pompilus, Lilion Brion, un beau type d'Haïtien cultivé, écrivain et avocat, et un jeune Allemand, Schlieden, assez vulgaire mais bien argenté. Silotte aime Brion avec passion, moins cependant que la vie brillante dont elle rêve que l'étranger peut se lui offrir. Encouragée par sa mère, elle rejette son prétendant haïtien en lui faisant cet aveu: J'épouse Schlieden parce que je ne peux pas de la vie petite, mesquine, tracassère des ménages sans fortune. C'est pourquoi je me suis juré que je ne ferai qu'un mariage solide, garanti avec un étranger bien posé. Évidemment, tu n'es pas un pauvre diable, mais tu es haïtien et ton petit avoir est à la merci du plus infime bouleversement. Et à ton premier exil, ce sera fait du peu que tu as. Or, je ne veux pas souffrir. Et cela, elle était en parfait accord avec sa mère qui déclarait référencement à son mari au cours d'une dispute: l'argent est tout. Et comme disait Pradel Pompilus, puisque l'argent est tout, on lui sacrifiera tout: amitié, honneur, pudeur même. Dans cette situation-ci, une mère ne s'associait pas avec la fiancée de son fils, comme c'était le cas dans La Vengeance de Mama, pour venger ce fils, mais pour tuer dans l'œuf les prétentions de celui qui aurait voulu devenir son gendre. Nous demeurons dans le même schéma d'un rapport conflictuel des frères, supervisé par la mère et sa fille, et où la fille, cette fois, fait faux bond à celui qui serait le mieux qualifié pour devenir le gendre de sa mère. Son frère, en quelque sorte, Silotte Tazard, qui craignait tant, en épousant un Haïtien, de se retrouver en exil dans la misère avant de suivre son mari en Allemagne, viendra faire cet aveu à son ancien, prétendant qu'elle avait voulu revoir. C'est triste, la vie. Donc, il nous reste à examiner une variante Ah, une variante encore plus étonnante de ce rapport de force au sein de cette famille que dépeignent les romanciers haïtiens. C'est dans le récit de Justin l'Hérisson, la famille des petites cailles. On a toujours souligné l'originalité de ce récit que son auteur a voulu qualifier d'audience et non pas de roman pour bien montrer sa fidélité à une forme de la tradition orale populaire dont il s'inspirait. Mais on n'a pas encore relevé que ce récit plein d'humour et d'esprit était aussi un roman d'anticipation. Qu'arriverait-il en effet si une sœur qui veut se porter à la rescousse de son frère, non pas un peu trop tard comme Mama, ou pas du tout comme si le hasard s'était décidé plutôt à lui offrir le bonheur clé en main, comme on dit dès le départ? Ce serait un véritable conte de fées. Et pourtant, l'audience de Justin L'Hérisson nous fait voir que rien n'est moins sûr, car il n'y aurait une dernière barrière à surmonter, la plus haute sans doute celle de s'assurer de ce que le bénéficiaire ferait de ce cadeau. Donc le titre même de cette audience, La famille des petites cailles, publié en 1905, ce qui pourrait se traduire par la famille des enfants de la maison, faisait semblant de ce récit une métaphore individualisée d'une situation collective passée que l'on avait la chance de transformer en situation moderne. Mais pour cela, il aurait fallu que le bénéficiaire du cadeau que lui fait sa mère eût une vision passée à dépasser et du futur à bâtir, avoir en quelque sorte un plan pour aujourd'hui et un autre pour demain. Donc le héros du récit de l'Hérisson, Eliezer Petite-Caille, le seul fils qu'eut son père de sa mère légitime, est sans nul doute le plus chanceux des enfants d'une famille par ailleurs fort étendue. En effet, après avoir roulé sa bosse et pratiqué tous les métiers jusqu'à finalement devenir marin, Eliezer eut le bonheur de rencontrer une Martiniquaise, Véléda, une tireuse de cartes voyante dont la clientèle était si nombreuse qu'elle était devenue riche. Eliezer l'épousa et grâce à la dot inattendue que lui apportait sa femme, commença par faire en guise de lune de bien un agréable voyage à Paris. Donc ensuite le couple vint s'installer dans un quartier chic de la capitale. Arrêtons-nous un instant sur le profil de cette épouse. D'Eliezer, martiniquaise, donc antillaise d'ascendance mi-africaine, mi-française, Velleda nous fait immédiatement penser à ces deux personnages de nationalité française qui ont joué un même rôle d'adjuvante qu'elle. Il s'agit d'une part de la française Stella, qui dans le roman d'Émeric Bergeau avait aidé les jumeaux Romulus et Rémus dans leur lutte pour l'indépendance d'Haïti, et d'autre part, de la journaliste étrangère française, selon toute probabilité, qui était devenue la muse de l'étudiant dans le roman bicentenaire de Lionel Trouillot, avec cette différence que si ces deux adjuvantes sont définitivement retournées en France, Velléda, elle, après un bref crochet par Paris pour sa lune de miel, est revenue vivre à Port-au-Prince avec son mari. L'adjuvante qui soutenait le protagoniste est donc revenue vivre avec lui sur les lieux mêmes de leur combat avec la dot de sa femme. Eliezer, qui juste que la tirait le diable par la queue, aurait pu mener une vie paisible ou mieux encore, voire à faire fructifier son capital. Mais au lieu de se contenter d'une vie pacifique, Eliezer, pris d'une sorte de folie des grandeurs, commença par se faire membre d'une loge franc-maçonnique pour ensuite entreprendre de se faire élire comme député du peuple. Mal en lui en prit, les autorités en place s'empressèrent de freiner cette ascension à laquelle il aspirait. Il fut donc arrêté, jeté en prison et s'en sortira que pour mourir. Entre-temps, il avait été ruiné et ses deux enfants avaient connu un sort tout aussi lamentable que le sien. Quant à la scaphandre, au bout de tous ses déboires, elle finira par devenir la maîtresse de ses potentats qu'Eliezer Pitsitkaï avait eu la mauvaise idée d'affronter. Avec une telle intrigue, Justin L'Hérisson écrivait un récit d'anticipation plutôt qu'une simple relation de faits présents ou passés. En effet, la vengeance de Mama s'était terminée par son suicide et les époussailles de Silotazar ne lui avaient pas rapporté le bonheur qu'elle souhaitait. Or, le résultat n'est guère meilleur pour Eliezer Pitsitkaï et qui avait pourtant bien commencer sa vie familiale. Donc la réponse à la question implicite de l'Hérisson, c'est Jacques Roumain qui viendra d'un gouverneur de la Rosée commencer à nous les dévoiler. Donc c'est ça. Puis devant, on va venir sous, gouverneur de la Rosée. Et, mais oui, son bel travail, oui, là, on a retourné sur ça. Mais oui, gouverneur de la Rosée, cette mise en évidence du rôle d'adjuvant que joue la sœur et la variété des positions qu'elle pouvait prendre dans les œuvres des romanciers de la ronde permet de saisir le tournant que va prendre gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain en montrant une sœur qui poursuit la lutte du frère en s'associant avec la mère de celui-ci. Ce qui est l'inverse du comportement de Silotazar qui s'allie avec sa mère pour repousser le prétendant qu'elle préférerait, plutôt qu'elle préférait. Dans le gouverneur de la Rosée, qui parut en 1944, délira la mère de Manuel après la mort de celui-ci, réussit à sauver les extrémistes. Le projet que présentait son fils à ses voisins de Fond Rouge pour la sauvegarde de leur village. La communauté de Fond Rouge était divisée en deux clans ennemis. Manuel et Servilien étaient les porte-parole de ces deux groupes. Quand Manuel viendra proposer la paix à ses ennemis, Servilien l'assassinera. Mais l'intervention de Delira, la mère du défunt, secondée par Anaïs, membre du clan de Gervilien, mais qui avait rejoint celui de Manuel, permettra de sauver le projet de réconcilier les Haïtiens du village. Cette intervention de la mère est appuyée par une sœur. Anaïs se déclare fille de Delira en l'appelant « Maman ». Par cette parole, elle devient en quelque sorte la sœur de son défunt amoureux. L'association positive de la mère et de la sœur d'un gouverneur de la Rosée renversait et l'alliance négative de Madame Tazar et de sa fille Silotte, puisque cette fois-ci, cette alliance conduisait l'histoire à une fin, sinon heureuse, du moins satisfaisante. De cette alliance d'une mère et d'une sœur, d'une sœur, comblait le vide que l'on pouvait constater dans les romans de Bergeau et de Trouillot par l'absence des mères, Marie l'Africaine et Ernestine Saint-Hilaire, et le départ des sœurs qui étaient l'ange de la liberté et la journaliste étrangère. En même temps, elle préparait le passage de la sœur de la fonction d'adjuvant à celle de protagoniste de l'action. Donc le succès de la démarche conjointe de Delira et d'Anaïs le laisse présager et cela se confirmera dans les romans de Marie Chauvet. Amour et colère de Marie Chauvet. Si l'intervention de Delira, assistée par Anaïs, a assuré la survie du plan de Manuel, elle n'a pas pu sauver la vie de celui-ci puisqu'il était déjà mort quand les deux femmes sont intervenues. C'est cette intervention heureuse et surtout en temps opportun que vont réussir à faire Claire et Rose dans les deux premiers récits de la trilogie de Marie Chauvet, Amour, Colère, Folie, publiée en 1968. L'histoire de Claire dans Amour est complexe. Elle a pris la direction de la maison familiale et cohabite avec ses deux sœurs. L'une est célibataire et l'autre est mariée à un Français, Jean Luz. Le couple a une fille dont Claire est la marraine. Tout cela fait de Claire un véritable chef de famille. Or, Claire aime en secret Jean Luz, son beau-frère, avec qui elle partage d'ailleurs les mêmes convictions politiques progressistes. Elle ne pourrait donc pas se comporter en rival de sa sœur, donc en donnant libre cours à son amour, sans plonger sa famille dans le malheur. Mais en même temps, Claire est courtisée par Calédu, le tonton Macoute qui règne en maître sur la ville. Elle ne pouvait pas s'associer à ce tyran sans renoncer à ses convictions politiques et surtout sans contribuer à augmenter le malheur de ses concitoyens. Double dilemme donc qu'elle dénoue par un double sacrifice. Après une longue et douloureuse introspection, elle choisit de renforcer à son amour pour son beau-frère et de tuer le tonton Macoute qui terrorisait la ville. On peut parler de double sacrifice puisqu'il s'agit d'une victoire remportée au prix d'un double renoncement personnel. Et peut-être même pourrait-on dire pour une double satisfaction. L'appui au bonheur de sa famille est aussi la satisfaction d'appuyer un beau-frère dont elle partage les convictions politiques. La mort de Calédu est une satisfaction pour la ville qui est délivrée d'un tyran et pour Claire d'être débarrassée d'un prétendu indésirable. Donc, or, on aura remarqué que Claire parvient à ce dénouement en assumant seule la double fonction de protagoniste et d'adjuvant que remplissaient séparément Delira et Anaïs. Elle se fait et autant Timo ou Meros, bourreau de soi-même. Hein? Donc, par deux fois, au profit de deux groupes de bénéficiaires, sa famille et sa communauté. Ainsi peut-elle assurer une fin heureuse au combat dans lequel elle était plongée. Dans Colère, le second récit de la trilogie de Marie Chauvin, l'histoire peut être moins complexe, mais pas moins cruelle. Rose accepte délibérément de devenir l'objet, la victime des fantasmes sexuels du tonton Macoute qui la convoitait. Mais c'est grâce à ce sacrifice qu'elle permet à son frère d'obtenir la permission de quitter le pays. Elle sauve la vie de son frère en sacrifiant la sienne, autrement dit, en remplissant la double fonction d'un protagoniste, acceptant d'être l'objet d'un ennemi commun. Un résultat qu'expliquait déjà le titre du dernier chapitre de Gouverneur de la Rosée, La fin et le commencement. En effet, tout dénouement positif se caractérise par une fin qui est en même temps un commencement. On ne met fin à une situation malheureuse que pour commencer une nouvelle plus heureuse. De ce point de vue, on peut comprendre par exemple l'échec d'Élisère, petite caille qui voulait bien changer sa condition et personnelle, mais sans changer la condition collective de la population qu'elle voulait représenter comme députée. Donc cela vaut aussi pour Marie-Lise qui n'avait pas d'autre raison de vivre que celle de se venger. Et tout autant pour Xylote Tazar, à qui sa trahison à elle-même et à son prétendant n'apporte pas la vie heureuse qu'elle espérait. Autrement dit, le bonheur que l'on veut avoir plus tard exige des sacrifices dans le moment présent. Emmanuel en étant bien conscient, puisque c'est sur cette recommandation que sa mère et Anaïs ne dénonceront pas celui qui l'a tué, il acceptait de mourir si cela devait contribuer à faire triompher la cause qu'il défendait. C'est ce même genre de sacrifice auquel les deux héroïnes d'amour et de colère et consentent. Donc, autrement dit, il faut avoir une vision de la situation présente à changer et du renouveau qu'apporterait la situation qui allait remplacer la première. Avoir en même temps un plan pour aujourd'hui et un autre pour demain. Et surtout, consentir d'avance au sacrifice qu'exigera ce passage. Or, ce sacrifice se mesure à l'aune de la mort que Manuel et Rose acceptent par avance. La lutte des femmes haïtiennes, c'est ça. Dès le début de la révolution haïtienne en 1802, les femmes ont soutenu les armes à la main, la lutte de libération nationale, comme l'illustrent les noms des femmes célèbres, Sanit Belair, Marie-Jeanne Lamartinière ou Catherine Flan. Mais les femmes, pour la plupart de tout temps, ont mené la lutte en étant la base arrière qui soutenait ceux qui se basaient sur le front. Les figures romanesques de Marie l'Africaine dans Stella ou d'Ernestine Saint-Hilaire dans Bicentenaire représentent cette armée souffrant de l'arrière-garde. De 1804 à 1915, les Haïtiens semblent n'avoir eu qu'une seule obsession, celle de mettre en place un gouvernement politiquement correct selon les normes européennes. Dès là, cette persistance à ne pas faire autre chose que promulguer de nouvelles constitutions à chaque reprise de pouvoir à la suite d'une insurrection militaire, eh bien, il aura fallu gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain pour proposer désormais comme objectif d'une nouvelle politique indigéniste, non pas seulement l'utilisation de la langue créole ou l'éloge de la culture populaire, mais la volonté chez les personnages romanesques de travailler à assurer le bien-être collectif de leurs concitoyens, comme c'est le cas de Manuel pour les habitants de Font-Rouge. Et c'est dans cette même veine que s'inscrit la création de la première tragédie écrite en créole, l'Antigone, 1963, de Félix Morisot Leroy, qui est une adaptation de la pièce de Sophocle représentant, comme le sait, la révolte d'une sœur qui défendait la mémoire d'un frère mort à qui elle voulait donner une sépulture honorable. Si l'on examine cette imitation de Sophocle par Maurice Leroy, on doit le faire aussi pour une chanson comme Ti maman pa kite m'aller. Et puis, n'a pas de pause. La lutte des femmes haïtiennes. La lutte des femmes haïtiennes. Dès le début de la révolution haïtienne en 1802, les femmes sont soutenues, les armes à la main, la lutte de libération nationale, comme l'illustrent les noms de femmes célèbres, Sanit Belair, Marie-Jeanne Lamartinière ou Catherine Flan. Mais les femmes, pour la plupart et de tout temps, ont mené la lutte en étant la base arrière qui soutenait ceux qui se battaient sur le front. Les figures romanesques de Marie l'Africaine dans Stella ou d'Ernestine en Saint-Hilaire dans Bicentenaire représentent cette armée souffrante de l'arrière-garde. De 1804 à 1915, les Haïtiens semblent n'avoir eu qu'une seule obsession, celle de mettre en place un gouvernement politiquement correct selon les normes européennes. De là, cette persistance à ne pas en faire autre chose que promulguer de nouvelles constitutions à chaque prise du pouvoir à la suite d'une insurrection militaire. Donc, il aura fallu gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain pour proposer désormais comme adjectif d'une nouvelle politique indigéniste, non pas seulement l'utilisation de la langue créole ou l'éloge de la culture populaire, mais la volonté chez les personnages romanesques de travailler à assurer le bien-être collectif de leurs concitoyens, comme c'est le cas de Manuel pour les habitants de Font-Rouge. C'est dans cette même veine que s'inscrit la création de la première tragédie écrite en langue créole, l'Antigone, en 1963 de Félix Maurice Leroy, qui est une adaptation de la pièce de Sophocle, représentant, comme on le sait, la révolte d'une sœur qui défendait la mémoire d'un frère mort à qui elle voulait donner une sépulture honorable. Si l'on réexamine cette imitation de Sophocle par Maurice Leroy, on doit le faire aussi pour une autre chanson comme Timaman, Pakitemalé, ou pour cette autre chanson où celui qui parle souhaite mourir dans les bras de la mère d'Haïti, de la mère Haïti. On verra plus tôt qu'il s'agit de la mère, de la même supplique d'un frère-fils qui s'adresse à une sœur-mère pour qu'elle le maintienne en vie ou le fasse renaître. S'il fallait résumer l'histoire que nous racontent les romanciers haïtiens depuis la publication de leur premier roman, je dirais que c'est l'histoire d'une lutte que mènent deux frères qui d'abord combattirent ensemble contre un ennemi étranger. Ils furent aidés dans cette lutte par des sœurs venues de l'étranger. Mais une fois cette lutte terminée, les frères se sont lancés dans une nouvelle guerre, cette fois entre eux-mêmes. Ces premières sœurs se sont alors retirées pour céder la place à d'autres sœurs plus proches des combattants. Elles étaient chargées non pas d'appuyer la lutte fratricide des frères, mais de les réconcilier. Et ces sœurs échouèrent d'abord dans cette mission, soit en s'y prenant trop tard, soit par mauvaise foi, soit par l'absence de collaboration de la part des frères. Donc, mais quand mère et sœurs joignirent leurs efforts de protagonistes et d'adjuvants, et d'adjuvant plutôt, les deux purent sauver l'héritage d'un frère mort au combat et assurer ainsi une première forme de réconciliation. Donc cela ne mit pas fin pour autant à la querelle des frères, mais la sœur, agissant désormais seule dans la double fonction de protagoniste et d'adjuvante, est parvenue, à force de sacrifice, à éviter au moins la mort du frère, de sorte que l'avenir demeure ouvert. Il en résulte que à lutta continua. Cela est d'autant plus vrai qu'un roman relativement récent, puisqu'il fut publié après les récits de Marie Chauvet, vient de démontrer qu'il reste aux frères à entrer dans le jeu pour appuyer la sœur dans sa démarche de réconciliation. En 1975, Franck Étienne a publié Desafi, le premier roman écrit en langue haïtienne. Ce récit nous raconte une histoire encore plus troublante que celle des déserts Petite Caille. Si ce dernier avait déçu par son comportement après avoir reçu l'aide de sa femme Véléda, le comportement de Claude Donis dans Desafi est plus troublant et nous laisse même perplexes. Résumons les faits qui sont racontés dans Desafi. Claude Donis, jeune activiste militant contre les injustices sociales, est réduit à l'état de zombie par Zofin, un Ougan sorcier. Mais Sultana, la fille du Ougan, s'éprend de Clodonis et le livre de son état de zombie en lui donnant du sel à avaler. Donc rappelons que selon le mythe de la zombification, donner du sel à goûter à un zombie le tire de sa léthargie et lui permet de reprendre une pleine conscience de sa situation. Ajoutons que si Aymeric Berger, au début de l'histoire du roman haïtien de langue française, s'était servi du mythe de la fondation de Rome par les jumeaux Romulus et Rémus, Franck Étienne reprend le même procédé. Il se sert pour écrire le premier roman en langue créole d'un mythe du vaudou, celui de la zombification. Mythe qui n'est pas sans rapport avec cet autre mythe du Vaudon qui veut que les jumeaux Marassa soient tout puissants quand ils s'entendent et sans force quand ils ne se s'entendent pas. Donc toute lutte entre frères et ennemis se ramènerait en somme à la volonté de chacun de zombifier l'autre. Donc Franck Étienne procède à un réaménagement du schéma traditionnel de la lutte des frères et ennemis. en faisant du Mungan Saint-Il un père incestueux de sa fille Sultana, il en fait un personnage double, à la fois père et frère de sœur de sa fille. Voilà qui le place dans la fonction de rival de Clodonis, puisque Sultana se déclare ouvertement amoureuse de Clodonis. Par cette déclaration, elle donnait la priorité à celui qu'elle voyait comme son frère, comme ce père à deux visages. Or, quand Sultana, par amour pour Clodonis, lui donne du sel à goûter et que ce dernier sort de son hébétude, la première réaction de ce mort revenu vivant est de donner une gifle épouvantablement forte à sa libératrice. Li coupé, Sultana, yon patachouel, et puis brase, on en a crasé, brisé, démantibilé, blaïvidé. Il lui flanqua une gifle à écraser, briser, détruire, jeter par terre, à couper le souffle. La seule enfilade de ses épithètes agglutinées, surtout à faire comprendre la force et la férocité de cette réaction étonnante de quelqu'un qui bénéficiait pourtant d'un geste fait par amour et pour sa délivrance. La seule remarque que l'on puisse faire alors, c'est de constater que l'inconscience d'Eliezer Petitkaï, gaspillant en 1905 la chance que lui donnait Velleda, n'avait pas cessé en 1975. Tout comme l'imprudence d'Eliezer ruinait tous les forfaits par Velleda, l'ingratitude ou l'aveuglement de Clodinis n'augurait rien de bon pour l'avenir. Force est de conclure que si dans cette lutte commune, la sœur avait amplement fait sa part, il reste encore au frère à faire la sienne. Un espoir demeure, cependant. On remarquera que les nouvelles héroïnes arrivent à prendre l'attitude qu'elles adoptent à la suite d'un long et sincère examen de conscience où elles mettent leur âme à nu. C'est ce qui illustre fort bien le cas de Claire dans l'amour. Le récit dans ce roman n'est rien d'autre que la lecture que fait Claire du journal qu'elle tient. Un signe sans doute que nous fait Marie Chauvet pour suggérer que ces personnages, notamment les frères ennemis et nous-mêmes, lecteurs, nous devrions en faire autant. C'est-à-dire rentrer dans notre âme et conscience et nous regarder sans phare. En fait, cette prise de conscience avait commencé déjà dans Gouverneur de la Rosée, mais l'art d'écrire de Marie Chauvet rend plus sensible cet exercice pour le lecteur. On ne peut pas donner de réponse à une question qu'on ne s'est jamais posée. Ce sont les faits qui nous amène à nous interroger. C'est pour cela qu'on veut dire à luta continua, la lutte des femmes et des hommes se poursuit comme une histoire qui doit finir pour recommencer autrement. Avant Roumain, ce qui veut dire avant l'occupation d'État usunien de 1915 à la révolution bolchevique de 1915, à l'époque de la Fronde, en somme, on ne voyait pas les choses comme on les voit depuis. Il en va de même pour Marie Chauvet, qui ne devait pas s'attendre à voir les Zinglins de Soulouk et les fillettes Lalo de Salnave renaître sous le nom de Tonton Macoute pendant le règne de François Duvalier. On définit généralement la tradition comme une mémoire vivante de la collectivité. Si tel est le cas, on doit admettre que ce n'est que depuis peu que les Haïtiens se souviennent de leur passé par écrit. D'abord, ce fut en français et plus récemment en haïtien. Par ailleurs, les traditions peuvent dans les pays de vieilles civilisations remonter à des millénaires, mais pour les sociétés de formation récente, elles prennent du temps à se faire ou à se défaire. Alors, il faut, comme nous y invite Antonio Candido, distinguer dans la masse des récits les manifestations littéraires de la littérature proprement dite, laquelle doit être perçue comme quoi et comme un système. Ce qui permet de distinguer des phases de l'évolution de ce système. Et puis, comme on le voit, par les différentes exigences que fait le critique brésilien, l'analyse d'une tradition est pour le moins compliquée dans un pays comme Haïti, à plusieurs des divers prérequis énumérés dans Formação da Literatura Brasileira. Tarde à se matérialiser dans la réalité. Donc, songeons d'abord à l'analphabétisme, barrière tant à la constitution de public de lecteurs qu'à la floraison de maisons d'édition. Et comme cet analphabétisme vaut autant pour la connaissance de la langue française que de l'haïtienne, et que ce double de la précarité des moyens dont disposent les éventuels lecteurs, on comprendra que cela continue encore de facteurs susceptibles de freiner aussi bien la constitution du public lecteur que la prolifération des créateurs et de la plume. Donc de là, notamment, cette obligation de se référer à l'oral pour expliquer ce qui est écrit. Donc il y aurait d'ailleurs bien d'autres handicaps à relever. Néanmoins, lisant les conditions posées par l'auteur de Formação de la Literatura Brasileira nous permettent de faire un état de la question et de mesurer quoi? Et de mesurer et la distance parcourue dans la formation de la littérature haïtienne, aussi bien de la langue française qu'haïtienne. Donc si, comme le dit Antonio Candido, la tradition littéraire est un système symbolique qui permet à un individu de communiquer au reste du monde sa vision et son interprétation de la réalité, donc on peut dire qu'Émeric Berger focalise l'attention sur la mère mise à mort. Lionel Trouillot le fait sur la mère infirme et abandonnée à son sort. Jacques Roumain, par contre, nous montre la mère et la sœur se dressant pour sauver la croisade du fils et du frère, tandis que Marie Chauvet et Franck Étienne nous présentent la sœur qui vole au secours de son frère et pour la première fois le libère. Donc chacun de ces écrivains, en résumé, à sa manière et selon son époque, s'appuie sur cette focalisation de la vision haïtienne sur la femme pour nous montrer que l'héroïsme n'est point tant une question de sexe qu'une capacité de faire un examen de conscience en toute honnêteté. Amour et de Marie Chauvet, disions-nous, en est un exemple par ce dévoilement d'elle-même que fait Claire à la lecture de son propre journal. Cela lui permet de se voir sans fard, comme dans un miroir, et de tirer en toute sincérité les conclusions auxquelles l'amènent ses propres pensées sur sa vie, aussi bien qu'individuelle que sociale. Donc, nous te prenons ça pour vous, dans Maximilien Laroche, La Longue Marche. Et puis donc c'est un passage et c'est une partie dans texte dans livre là où voit Jacques et la longue marche des femmes haïtiennes de la sœur à la mère. Donc nous bien contents de gagner chance pour obtenir des noms. Donc merci en pile et n'a dit Maxime Laroche merci et de fin et puis n'a dit Capitaine merci qui te voyait copie ça fait nos cadeaux en forme et Camilla.
Oui, c'est comme ça, on a mis un bouchon avec Haïti. Haïti, il y a plusieurs artistes qui ont fait ça, mais artistes dans Haïti. Premier tranche en bâtonnel là. N'a pas fait un jour qu'à 8 heures du soir.
Pour l'hôpital, le type n'est pas sauvé. Les nouvelles lagailles. COVID-19, WMFO DJs are pre-recording their shows for broadcast on air. We can still accept phone calls, but the phone line is in voicemail mode. Call 855-915-9636 and be sure to leave the DJ's name in the voicemail so we can forward it to the correct person. The following program was recorded earlier. Enjoy.